France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 12 juin. Bernadette Chamonaz, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, menottes jetées à terre, police en colère, les forces de l'ordre se sentent trahies par leur tutelle. Nouvelles actions prévues à moins que le ministre de l'Intérieur ne fasse machine arrière. On voit ça en détail, Bernadette, après les autres titres.
École empêchée, parents harassés, il faut assouplir les consignes sanitaires. Ils attendent beaucoup du Conseil de défense ce matin. Y aura-t-il des coupures de courant cet hiver? Le virus a entraîné un coup de frein sur la production d'électricité. Le gouvernement annonce des mesures. Traçage numérique, Singapour imagine le jeton sans smartphone, explication. De nouvelles richesses sous-marines pour la France et un appel à vivre intensément. Le dernier album de la chanteuse Jenny Bess.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50 au micro d'Ali Badou, ce sera l'essayiste et journaliste Caroline Fourest. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'ancien ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, devenu aujourd'hui entrepreneur, Arnaud Montebourg, au micro d'Inter. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
À lui de regravir l'Everest de la confiance, un cri du cœur. Le ministre nous a trahis, un geste symbole, les menottes jetées à terre, et comme un seul homme, des centaines de policiers qui se sont rassemblés hier soir pour exprimer donc leur colère après les propos de Christophe Castaner sur les suspicions de racisme et les techniques d'interpellation désormais à éviter. Bobigny, Roubaix, Toulouse ou encore ici à Marseille, c'est un reportage de Mathilde Vincenu.
Ils sont alignés face au palais de justice, certains en uniforme, d'autres en civil, et tous ensemble, ils jettent leurs menottes à terre.
Le lien de confiance entre notre ministre Castaner et les policiers, le lien est brisé.
Bruno Bartosetti, délégué régional du syndicat SGP Police FO.
On est courageux, on est professionnel, on a vraiment beaucoup de travail entre les actes terroristes, entre les gilets jaunes, entre le confinement. Et alors qu'on a besoin du soutien de notre ministre, eh bien on se sent lâché, abandonné, trahi.
Et ce qui ne passe pas, ce sont ses déclarations sur les techniques d'intervention, sur le racisme aussi. Le risque d'amalgame est insupportable pour ce policier de la BAC Nord, 18 ans de maison.
On n'est pas là pour soi-disant taper des Arabes, des Noirs, non, ou non, c'est pas ça. Je suis Marseillais, mais fils d'immigrés algériens. J'ai rencontré des officiers qui m'ont toujours aidé, qui m'ont toujours soutenu. On est Français, c'est ce sentiment-là qui prédomine chez nous. Après, on peut parler du phénomène de racisme dans la société. Mais de là, pointer du doigt la police, non, ça j'admets pas.
L'émotion prend vite le dessus, le policier lâche quelques larmes. Une émotion, une colère aussi, qui va continuer de mobiliser. Un nouveau rassemblement est prévu aujourd'hui dans le centre-ville. Marseille, Mathilde Vincenu, France Inter.
Et le ministre de l'Intérieur qui tente d'apaiser les tensions, d'y regretter ses propos sur les suspicions de racisme. Désormais, pour suspendre un policier, il faudra que les faits de racisme soient avérés et il pourrait peut-être aussi revenir sur l'interdiction de la technique dite d'étranglement sous certaines conditions. On y revient dans le journal de 8h. Zineb Redouane a bien été tué par une grenade tirée par un policier, mais il n'y avait pas intention de tuer. C'était à Marseille en décembre 2018. Lors d'une manifestation de gilets jaunes, le rapport balistique précise que le tir en cloche était conforme aux instructions, qu'il ne visait pas la vieille dame. L'avocat de la famille demande cependant une nouvelle étude balistique et s'interroge. Comment un policier peut-il viser un immeuble?
Il est 7h04, déconfiner l'école, c'est le cri du cœur, Bernadette, de parents harassés.
Qui attendent avec anxiété, on sent que c'est vécu là. Hein. Ce que pourrait décider aujourd'hui le Conseil de défense qui est réuni ce matin à l'Élysée, va-t-il assouplir le protocole sanitaire, cette règle des 15 élèves maximum par classe, une jauge qui est même encore plus stricte parfois dans certaines écoles, au grand désespoir de beaucoup de parents comme cette famille que vous avez rencontrée à Pantin, Rémi Brocato.
Un mois après la fin du confinement, dans la maison d'Émilie, rien n'a changé.
Votre bureau, c'est ici?
C'est ici.
D'accord. Cette traductrice dans une organisation internationale et son mari sont toujours en télétravail.
Mon travail me demande une concentration absolue. Pour nous, la vie n'a pas repris, c'est une évidence.
Sur leurs trois garçons, seul l'aîné retourne au collège les matins.
Le deuxième, qui est en CM1, a pu avoir une journée cette semaine. Le petit n'a toujours pas pu réintégrer l'école, ne serait-ce que pour une journée.
Car leur école privilégie le retour des enfants qui vivent dans des petits logements qui sont en décrochage. décrochage scolaire ou dont les parents ne peuvent pas télétravailler. Émilie ne coche aucune case, elle a dû embaucher une babysitter l'après-midi.
Je regrette qu'on puisse considérer que parce qu'on télétravaille, on peut aussi s'occuper de ses enfants. Je travaille plus tard le soir pour compenser justement les interruptions.
Car son employeur n'accorde plus aussi facilement les jours de congé pour garde d'enfants.
Depuis la fin du confinement, il est plus difficile de faire comprendre que nos enfants ne sont en fait toujours pas à l'école.
Et Jean, 6 ans, qui est en CP, commence à trouver le temps long.
Quand j'ai fini mon travail, j'ennuie un peu. Je préférerais être à l'école.
Nos enfants ont besoin de revoir leur école, même pour quelques heures. C'est une nécessité pour clôturer cette année, pour avoir ce sentiment aussi de partir en vacances après.
Pour l'instant, Jean pourra retourner une journée à l'école la semaine prochaine, la première fois depuis 3 mois.
Et le ministre de l'Éducation s'est dit favorable à un allègement des consignes à l'école, notamment à la récréation, à la cantine et pour les activités sportives. Car le virus, c'est vrai, circule nettement moins en France. Le conseil scientifique le reconnaît. De moins en moins de malades en réanimation, 903 actuellement. La nouvelle étape du déconfinement décidé donc en Conseil de défense, sera ensuite annoncé précisément par le Président de la République. Ce sera dimanche soir à 20h, allocution à la télévision et à la radio.
7h06, moins d'urgence sanitaire donc, Bernadette, mais une urgence économique.
1,5 million d'emplois supprimés au premier trimestre. Ce chiffre tombé hier fait froid dans le dos. Il ne concerne même pas la période de plein confinement. Il y a donc urgence à aider les chômeurs, mais aussi les salariés qui n'arriveraient plus à payer loyer ou emprunt immobilier. Ceux qui gagnent moins d'un SMIC et demi vont recevoir un chèque 150 euros. C'est toujours ça. Ne pas perdre son logement et si l'on a un toit, pouvoir se chauffer. Y aura-t-il des coupures de courant cet hiver ? Le risque est réel. Alors que l'épidémie a ralenti la production d'électricité, Delphine Simon, le gouvernement annonce plusieurs mesures avec là encore une aide pour les ménages.
En 30 ans, on n'aura jamais aussi peu produit d'électricité que cette année. Avec le coronavirus, les travaux de maintenance des centrales nucléaires prennent du retard. Si l'approvisionnement est garanti cet été, en cas de canicule ou de sécheresse, dès l'automne, il va falloir se montrer plus vigilant que d'habitude, prévient le président du réseau de lignes à haute tension RTE, François.
La situation atypique de cette année, c'est que la vigilance commencera dès fin octobre, début novembre, aux alentours de la Toussaint, ce qui n'était pas le cas les années précédentes, puisque moins de productibles. Et la situation serait ainsi sensible à cette époque si effectivement il y avait une vague de froid précoce.
Face à cette situation inédite, il va falloir se montrer plus économe, explique la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, annonce un coup de pouce sur les prix des thermostats.
Dès le 1er juillet, nous allons donc lancer un coup de pouce thermostat qui permettra de prendre en charge, via le mécanisme des certificats d'économie d'énergie, 150 euros sur le coût d'installation des thermostats, qui permettra de couvrir près de la moitié du coût d'installation pour un particulier.
Autant de mesures qui, elle l'assure, permettront d'éviter tout risque de coupure de courant involontaire et généralisée l'hiver prochain.
Delphine Simon, client frileux, réservation en Berne. La SNCF annule plusieurs trajets, 5% de trains supprimés. Les voyageurs peuvent se reporter sans frais sur d'autres trains. Victime collatérale de la pandémie, des millions d'enfants dans le monde forcés de travailler, alerte l'ONU, travailler pour aider leurs familles, alors que 50 millions de personnes pourtant pourraient basculer dans l'extrême pauvreté.
Singapour à la pointe du traçage numérique des malades.
Le petit État était déjà parmi les premiers au monde à mettre en place une application. Il va désormais plus loin, Gabriel Maréchaux, plus besoin de smartphone.
Il y a eu le chien robot qui contrôle la distanciation sociale, l'application de traçage téléchargeable depuis mars, mais aujourd'hui, Singapour veut aller encore plus loin, assure ce ministre.
Tout le monde n'a pas un smartphone ou un smartphone suffisamment efficace pour fournir toutes les données dont nous avons besoin. C'est pour ça que nous avons pris la décision d'étendre le programme de traçage collectif en lançant un dispositif que nous appellerons le jeton collectif de traçage.
Rapidement comparé à un bracelet électronique, ce jeton à porter sur soi a d'emblée suscité la méfiance de certains Singapouriens comme Wilson Low.
Je trouve que c'est préoccupant à deux niveaux. D'abord, il y a la question de savoir si ce sera obligatoire pour tout le monde de le porter. Et là, on parle du coup des citoyens singapouriens qui n'ont pas voté de loi l'autorisant. Et si ça n'est pas obligatoire pour tout le monde, on se retrouvera dans une société à plusieurs niveaux, avec d'un côté des gens autorisés à entrer à certains endroits, dans certains bâtiments, et d'autres qui n'auront plus le droit.
À l'origine d'une pétition signée par plus de 40 000 personnes, Wilson Law espère qu'à quelques mois des élections, la gestion du coronavirus développe l'esprit critique des Singapouriens qui n'ont connu qu'un seul parti au pouvoir depuis l'indépendance. Kuala Lumpur, Gabriel Maréchaux, France Inter.
Et en France, l'application Stop Covid a été téléchargée pour l'instant par 1,5 million de personnes. Je vous le disais en titre, la France s'agrandit, 150 000 km² de fonds sous-marins dans l'océan Indien, obtenus après plusieurs années de négociations, nouvelles richesses et nouvelles perspectives pour les scientifiques, Célia Kiré.
Ces fonds marins, désormais français, forment deux blocs, l'un au large de l'île de la Réunion, l'autre au large des îles Saint-Paul et Amsterdam, dans les terres australes et antarctiques françaises. À eux deux, ils représentent plus d'un quart de la superficie de l'Hexagone. La France pourra ainsi mieux protéger ces fonds et les explorer. Benoît Loubrieux est ingénieur à l'IFREMER.
Ce sont effectivement des nouvelles zones où on pourra engager des explorations scientifiques à la fois sur des aspects de ressources naturelles et aussi sur des meilleures connaissances en termes d'environnement biologique et éventuellement de biodiversité. On est dans des environnements de dorsale océanique, des zones d'activité volcanique importantes. Donc on sait qu'il y a des intérêts à les voir en termes de ressources, mais aussi d'écosystèmes. La France prend la main sur ces aspects de gestion de ces domaines sous-marins.
Et justement, la France pourra exploiter ces sous-sols potentiellement riches en minerais ou métaux précieux. Et elle pourra surtout empêcher les autres États de venir puiser dans ces ressources. En tout, la France convoite encore 500 000 km² de sol sous-marin sur la planète.
Et on termine par la plus anglaise des chanteuses françaises. Non, pas Jane Birkin, mais Jenny Bess, ex-chanteuse du groupe Savage. Elle sort aujourd'hui un album rock et tendre à la fois, Mathieu Culeron. I am naked
all the time. Après 14 ans passés à Londres et avoir fait le tour du monde avec son groupe Savages, Jenny Bess rentre à Paris avec l'idée de sortir un album sous son nom. Un disque entre chaos et apaisement, avec un sentiment d'urgence permanent. Jenny Bess.
C'était bizarre, mais j'étais complètement obsédée par ma propre mortalité. C'est-à-dire que tous les jours, j'y pensais. Je pensais que je pouvais mourir demain. Et j'ai commencé à me libérer de cette idée quand j'ai fini l'album. Mais aussi, j'avais envie que l'album il soit imprégné de cette urgence-là. Je trouve qu'on passe notre temps à vivre et oublier qu'on est mortel. De se le rappeler, c'est important. Et je pense qu'on l'a vu aussi ces derniers mois. Ça aide aussi à donner une valeur à la vie. If I ever see the French
countryside again. Un sentiment que l'on retrouve sur le titre The French Countryside, un titre que Jenny Bess a écrit précipitamment.
Je l'ai écrit dans un avion, en pleine turbulence, et je pensais qu'on allait se crasher. J'en étais persuadée, donc en panique, je prends un papier. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, parce qu'un papier, ça brûle dans un crash d'avion. Mais bon, je me suis dit, je vais écrire une lettre. Et c'était une promesse à l'être aimé d'aimer mieux.
To Love is to Live, un album aventureux pour l'ancienne chanteuse de Savages, un disque plus personnel, plus proche de son époque, un appel à vivre intensément avec les contraintes du moment.
Aimer, c'est vivre, aimer pour vivre. Très beau programme, ô combien nécessaire.
Merci beaucoup Bernadette Chamonaz.